Mais après, il faudra aller plus loin. Comme tu le disais, il faudra arriver à isoler les cyclistes et permettre aux bus de ne pas être freinés, quoi.
Les jours que je pensais à t'inviter à cette interview, à cette conversation, d'ailleurs, merci pour revenir.
Merci de m'accueillir.
La première chose que je me dis, c'est quoi la première question que je vais poser? Et j'ai dit, en fait, la première chose que je dois dire, c'est je dois avouer quelque chose. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ton pseudo profil.
Ouais. Okay.
Et au début, je disais la police de Nico. Je disais, ok, la police de Nico, bah, c'est, ouais, les gars, ils doivent s'appeler Nico.
Non, non.
Et c'est beaucoup après, tout seul, comme un grand, j'ai dit, ah ouais, c'est ça.
À force de le voir tagué dessous, tu l'avais.
Oui, non, mais voilà, mais après. Après, ça m'a réaffirmé qu'on les pseudos a changé à la police de Pierrot. Voilà. Pourquoi tu as décidé de mettre ces pseudos dans ton,
alors,
dans
ton profil? Il y a 2 ans maintenant, je crois que c'est. C'était déjà la campagne municipale. Il y a Nicolas Florian qui est devant le club de l'automobile. A fait une super déclaration comme quoi il allait remettre tous les cyclistes dans le bon chemin.
Ouais.
Et ça vexait pas mal de monde, moi le premier.
Ouais.
Parce qu'au quotidien, bah, à l'époque, il n'y avait pas autant d'aménagements qu'aujourd'hui et c'était quand même assez souvent la guerre. Bah, on était souvent frôlés par les voitures et quand tu rentres le soir et que tu as été frôlé par une voiture et que tu lis que le maire compte te remettre dans le droit chemin, ça te fait tiquer.
Alors, tu as créé ce profil avec quel objectif? C'était quoi l'ambition que tu as?
L'ambition, c'était de montrer au quotidien ce qu'on vivait.
Ouais.
C'était rien que ça. C'était pas, il n'y avait même pas l'idée d'améliorer les choses. C'était juste regarder ce qu'on vit et faites attention à vos déclarations, du coup.
Ah ouais.
Enfin, c'était mettre en face des déclarations la réalité des cyclistes. Okay. Parce qu'il n'y avait pas que la réalité. Enfin, d'accord, il y a la réalité des automobilistes qui voient des cyclistes brûler quelques feux. D'accord.
Ouais.
Mais il y a aussi la réalité des cyclistes qui sont pas toujours en sécurité et qui ont besoin de plus, en fait. Donc l'idée, c'était, on est là, on existe, on a besoin de sécurité, nous aussi.
Et après, la police de Pierrot.
Oui, bah, ça, c'était la continuité logique. J'étais un peu poussé. Et puis, après, je t'avoue que maintenant, je me sens un peu pris en otage par ce nom de profil. Mais bon.
Ah ouais? Pourquoi?
Parce que je suis pas la police, je suis pas là pour fliquer et pour machin, mais maintenant je partage mes idées, quoi. C'est devenu un compte perso plus qu'autre chose.
Oui, mais c'est très intéressant que voilà, comme je te disais, je t'avoue que au début j'ai eu du mal à comprendre, et après ça m'a fait énormément rigoler. J'ai dit non, mais c'est trop bien, c'est trop drôle le jeu de mots.
Mais apparemment, ça fait aussi rire la nouvelle équipe municipale que quand on a changé de nom. Ça en a fait rire de trois.
Ah, trop bien. Dans le monde de la cyclosphère qu'on parlait, est-ce qu'il y a eu un sujet que t'a choqué? Quelque chose que tu as dit, ah ouais, c'est énorme ça. Positif ou négatif,
Il y a des réactions d'automobilistes exclusifs qui me choquent de temps en temps. On le voit bien, c'est une sorte de guerre pour la place, quoi, finalement, parce que la rue, la place est limitée et c'est l'équilibrage qui compte, quoi. Donc forcément, il y a des fois où c'est un peu tendu, il faut passer outre.
Et ça, comme parlait tout à l'heure, toutes les réponses qu'on a souvent, vous les cyclistes.
Oui, c'est ça, bien sûr.
À chaque fois qu'on fait un... On dit quelque chose, on publie une image. Mais oui, mais vous les cyclistes, c'est vraiment très très drôle.
Après, et puis le pire, c'est vraiment le fait qu'ils disent que l'hiver, il n'y a plus personne. Dès qu'il pleut, il n'y a plus personne.
Ah oui.
Bon, là-dessus, on est très content. Je fais une petite parenthèse, mais le fait qu'on ait des données publiques maintenant, de l'open data, ça nous a permis de sortir des outils et de clairement montrer que les gens avaient tort.
Enfin,
d'ailleurs, ça nous a permis de découvrir aussi plein de choses. C'est vraiment super intéressant. Il faut remercier les services de la métropole et Delphine Jamais aussi pour tout le travail, parce qu'on a découvert par exemple que les cyclistes de la semaine, c'était pas du tout les mêmes que les cyclistes du week-end. Mmh. Un jour où il pleut en semaine, c'est les cyclistes bordelais qui avaient calculé ça, on perd 1% de cyclistes par millimètre de pluie.
Ok.
S'il pleut le week-end, ça s'effondre.
Ah ouais.
Vraiment. Et en fait, c'est juste que le vélo que tu utilises au quotidien, enfin en semaine, pour aller travailler, c'est des choses utilitaires, donc t'as pas le choix. Il faut se déplacer. Le week-end, tu reportes ton projet, quoi.
C'est donné que tu nous parlais sur la fréquentation des vélos sur la métropole. Qu'est-ce que c'est Open Data et peut bénéficier à la mobilité? En quoi tu penses? Je suis vraiment littéraire, voilà. Ouais. Vraiment, j'adore lire des livres, mais le côté informatique Open Data, je connais vraiment pas grand-chose.
Alors les data, c'est essentiellement pour. Il y a deux choses. Il y a une partie analyse, une partie compréhension, et après il y a aussi une partie appui de des discours ou contradictions. Quand on te dit qu'il n'y a plus personne l'hiver et que tu arrives à prouver le contraire, normalement la personne ne revient pas avec le même argument 2 jours plus tard, normalement.
Cet Open Data, il va trouver les données, mais ils vont trouver ces données où en fait?
C'est sur le site de la métropole. Je crois que la ville aussi a son propre Open Data, mais essentiellement sur le site de la métropole, data.bordeaux-métropole.fr, quelque chose comme ça. Enfin, sur Google, ça se trouve très facilement.
Et c'est ouvert, évidemment, Open Data, c'est ouvert
exactement
à tout le monde.
Il faut avoir un peu de connaissances pour le coup. Mais je crois que tu peux quand même télécharger des données au format CSV, donc tu peux les ouvrir dans un Excel.
Et là, ça qu'il a fait la cyclosphère bordelaise des Twitter, c'est qu'il a plusieurs comptes au réseau ouvert. Il a un compte, compteur vélo Bordeaux, quelque chose comme ça s'appelle, que tous les jours, plusieurs fois par jour, et il lance directement la fréquentation des moments en comparaison avec les mêmes jours de général, si c'est un mardi, il fait un moyen général, c'est ça?
C'est ça, exactement. C'est Cycliste Bordelais qui a lancé ça. On a une analyse assez fine, enfin il a une analyse assez fine en fonction du jour, et on voit bien que par rapport à la moyenne où on se situe. Bon, là on va vers les beaux jours, donc forcément c'est quand même en amélioration. Ce qui a tendance à ravir ceux qui sont opposés au vélo, mais bon, tant pis. Nous on sait quand même que malgré tout, on a des cyclistes au quotidien tout le temps. Et après, moi j'ai lancé un nouveau compte hier. J'affiche le taux d'occupation des parkings à Bordeaux.
Des parkings voitures.
Ouais, des parkings voitures. Pardon. Pour l'hypercentre, et donc c'est essentiellement des parkings en souterrain. Et on voit que au maximum, les jours où c'est. Bon, après on est dans un contexte un peu particulier, mais au maximum du taux d'occupation, on est à 75%.
Mais les parkings, ils sont privés.
Ils sont privés, bien sûr.
Il a les data, il a les données pour que tu puisses créer cet algorithme que tous les jours, plusieurs fois par jour.
Non, ça sera tous les jours, je donnerai les infos de la veille. Quoi.
Ah, ok.
C'est pour faire un bilan de la journée de la veille.
Ça veut dire qu'au moins une fois par jour, tu vas pouvoir mesurer la capacité d'un parking d'accueillir encore plus de voitures.
Alors, je ne sais pas si je descendrai au parking en question, mais là pour l'instant, c'est sur une zone, donc c'est sur l'hypercentre. Et puis le but, c'est de montrer que les parkings ne sont pas très remplis au quotidien et que. On pourrait faire autre chose en surface, du coup on pourrait supprimer une bonne partie du stationnement en surface pour mettre les voitures en souterrain. L'exemple qui me vient de suite, c'est le cours de la Somme, où actuellement il y a une bataille politique pour savoir
quoi faire.
Moi ce que je vois, c'est qu'il y a quand même deux files de voitures des deux côtés. Si on arrivait à en supprimer une, voire deux, il y a des parkings à côté partout. On laisse quelques places pour les PMR, parce qu'il faut bien sûr prendre en compte les personnes à mobilité réduite, mais il y a de quoi faire beaucoup mieux qu'une simple voie de bus, en fait. Une voie de bus plus vélo. On pourrait arriver à faire, ça je l'avais tweeté aussi, il me semble, une voie de bus et une piste cyclable de 3 mètres de large, à double sens.
Alors, comme il était ici tout à l'heure, je suis plutôt un littéraire. Mmh. Et plus que algorithme informatique et tout ça. Et j'avais lu dans le livre qu'avait écrit Michel Duchesne, l'ancien adjoint au maire pour la mobilité à la mairie de Bordeaux et à la métropole, vice-président de la métropole, je crois, si je ne me trompe pas. Quand il a quitté son mandat, il a écrit un livre, que je ne me souviens pas le nom. Et justement, il y avait un moment qui parlait des parkings et des stationnements et que lui, à la base, se demandait pourquoi les parkings voitures avaient été aussi surdimensionnés. Pour lui, vraiment, il disait pourquoi on a fait, pourquoi les chargés sont fait un parking aussi grand que ça. Et moi, je me questionnais pour ça. C'est, ok, peut-être dans les moments où vous avez réfléchi, peut-être c'était trop grand, mais aujourd'hui, en fait, il y a une solution. C'est toutes les voitures qui sont garées pendant longtemps, parce que c'est les voitures des riverains qui habitent là-bas, ou même pour les gens qui viennent au centre pour travailler ou pour faire des cours, bah, pourquoi doit rester en surface? Ils sont sur le terrain, ils sont là, il a la place est là, ils sont vides. Mm-hmm. Bon, pas vides non plus,
il faut non, mais, ils sont, ouais, mais il a la place. Ils sont au mieux à 75% plein. Quoi.
Après, la deuxième partie que je ne suis pas forcément convaincu, je ne me suis pas positionné encore par rapport à ça, c'est quelque chose qu'on avait parlé tous les deux, c'est pourquoi pas utiliser cet espace pour les parkings vélo. Et je me demande, est-ce que moi, si je vais au centre-ville, je vais descendre trois étages pour retrouver mon vélo dans le noir, finalement, je vais faire un petit cours là, j'ai un arceau, je le laisse là. Je sais pas.
Je l'ai vu à Nantes et c'est, pour le coup, les accès sont quand même beaucoup plus faciles. Et puis les parkings vélos sont juste... au premier étage, enfin, au premier sous-sol, donc l'accès il est très rapide et avec une rampe qui est plus douce que pour les voitures, mais forcément la capacité elle est plus importante qu'en surface. Et tu peux mettre des barrières tout autour et mettre une caméra pour sécuriser le truc.
C'est vrai que c'est une bonne solution pour les vélos, pour les personnes qui habitent, pour les riverains et qui n'utilisent pas le vélo tous les jours.
Mais même au quotidien, je pense. Quand tu vois à Péberlan la galère que c'est pour poser ton vélo, y a un parking juste en dessous. Ouais. Si on trouve, si on arrive à récupérer, je sais pas, une dizaine ou une vingtaine de places et qu'on, avec la faible taille des vélos, tu t'en mets beaucoup, quoi. Donc, on pourrait arriver à faire quelque chose d'intéressant.
Quel avenir tu le vois? Est-ce qu'il y a quelque chose que vraiment tu dis, on l'a pas fait encore, mais on va le faire bientôt?
Moi, il y a un truc qui me manque, et ça, c'est en tant que militant métro, c'est la capacité des bus et leur fréquentation.
Ok.
On aimerait beaucoup savoir quelles sont les lignes les plus fréquentées, si les bus sont pleins, si les trams sont pleins, on a une petite idée. Mais avoir des chiffres pour le montrer au quotidien, ça serait quand même beaucoup plus intéressant.
Pourquoi il n'y a pas de chiffres? Parce que c'est privé, ils ne sont pas obligés à le publier peut-être?
Parce que la métropole n'a pas décidé de publier les données pour l'instant.
Mais c'est Keolis, TBM, qu'il y a ces
bonne question. Keolis, oui, forcément, c'est, les TBM ont ces informations, parce que ça leur permet de savoir combien il faut de bus, et ça leur permet de réguler les horaires. Donc forcément, ils ont ces informations. Après, ce n'est pas des données qui sont publiques pour l'instant. Mais je pense que dans le contrat, il faudrait ajouter une partie open data.
Ouais. Ça serait très intéressant. C'est là que je reviens un petit peu sur la cyclosphère de Twitter. Il y a, on va dire, pour les personnes que je ne connais pas, il y a une dizaine, quinzaine de personnes que vous êtes très actifs, que vraiment, presque tous les jours, vous êtes en train de poster des choses. Et une des choses que ça m'a marqué, c'est que et les 10-15 personnes qui sont assez actives, c'est super constructif en fait. Ce n'est pas des râleurs en disant « Ah non, mais c'est n'importe quoi. » Ouais, mais ça arrive quand même. Mais il y a des propositions. Moi, par exemple, je suis très mauvais pour les noms, mais William Boy. William Boy s'appelle, qui fait des propositions des aménagements en 3D. Ah non, mais c'est magnifique.
C'est impressionnant.
Là, il fait des propositions qu'il faudrait étudier à niveau mobilité, c'est sûr, parce que à chaque fois que je regarde, je dis « Ah non, bah là, c'est compliqué pour la sécurité et tout ça, mais
il fait
des choses super cycliste bordelais. Mm-hmm. Il fait des propositions. Il a un niveau de, aussi des connaissances de la politique de la ville et des propositions qui sont c'est très fort. Mm-hmm. Et une autre chose que j'ai beaucoup aimé dans ces cyclosphères de Twitter bordelais, on pourrait dire, mm-hmm. c'est que peu à peu, il y a eu un mélange entre les usagers voilà, individuels, avec des associations comme Vélocité, ouais. mais aussi avec Circulation Bordeaux.
Ouais.
Et vraiment, il y a les institutions, associations et usagers que très très facilement,
c'est vrai que ça marche bien.
On va partager, on va se rencontrer, on se donne des conseils, ça marche. Il a TVM qui répond parfois oui, parfois non, quand ça l'intéresse, il répond, et quand ça ne mm-hmm. l'intéresse pas, il ne répond pas. Bon, mais c'est pas grave. Mais par contre, ils sont là aussi. Et ouais. c'est très, très, très intéressant.
Après, TVM, ils sont dans un. C'est un peu compliqué parce que. Bah, y a le... ce qui est organisé actuellement, les choses qui sont faites, c'est beaucoup de couloirs de bus ah. qui sont ouverts au vélo. Et les images qui sont souvent partagées, c'est des bus qui mettent en difficulté les cyclistes.
Ouais.
Et bon, en fait, c'est surtout que l'aménagement, il est bien par rapport à ce qu'il y avait avant, ouais. mais c'est pas forcément idéal. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin. Les bus, ils sont pas destinés à rester derrière les vélos. Quand t'as des bus qui sont pleins avec 50 personnes et que devant t'as deux vélos ouais. qui bloquent les bus, c'est une perte de temps pour tout le monde.
Il n'a pas longtemps, je crois qu'il a quelques jours. J'ai lu un article de le journal Le Monde qui justement parlait des aménagements et des différents métropoles et villes cyclables en France. Il prenait le cas des couloirs bus-vélo. Et clairement, avec le CEREMA et, bon, et des autres institutions, il disait que les couloirs bus-vélo sont très intéressants,
ouais.
mais c'est provisoire.
Ouais, c'est
si
ça.
On considère que les couloirs bus-vélo il doit rester, ça, ce n'est pas confortable pour personne. En fait, c'est là que.
Certainement pas pour les familles.
Et certainement pas pour les familles. Pour les néo-cyclistes, c'est très très compliqué. Même pour les cyclistes, on va dire un petit peu, espère que nous on peut être. On se fait des petits frayeurs quand il a un bus à une certaine vitesse que tu passes à côté parce qu'il n'a pas envie d'attendre derrière.
Plus les voitures qui respectent pas forcément le couloir, qui voient
voilà.
une occasion d'accélérer.
Les motos, les taxis et compagnie. Mais bon, après, c'est un compromis d'expérimentation que je trouve très intéressant. Et
ah
qu'il
oui,
a des endroits, il a, voilà, l'avenue de la République, pour exemple, c'est un endroit qui a aidé énormément parce que c'était bien compliqué, les partages vélo-péaton dans les trottoirs. Mm-hmm. Mais doit rester quelque chose de provisoire.
Je me souviens il y a deux ans quand j'entrais de Mérignac et que je prenais le soir, de nuit, les boulevards,
ouais.
c'était une horreur.
Ouais.
Enfin, tu étais régulièrement frôlé par des voitures de nuit, même en hiver, enfin, c'est le pire exemple, d'accord, mais c'est vraiment une catastrophe. Enfin, c'était vraiment une ouais. catastrophe. Alors maintenant qu'on a des couloirs larges, mais là c'est vraiment pratique et clairement c'est beaucoup plus séduisant qu'avant. Ouais. Après, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Il y aura à terme une piste sur le côté.
J'espère.
Il faut
militer pour ça. Et c'est pour ça que je trouve la démarche des individus en tuteur, je trouve très intéressante parce que c'est dehors des associations. D'ailleurs, souvent, je me demandais, Paul, pourquoi tu n'as pas commencé à travailler ou à collaborer avec une association comme Vélocité ou des autres associations
d'aide. C'est l'avantage de Twitter, c'est quand tu as une idée, tu l'as dit.
Ouais.
Si elle est bonne, elle est reprise. Si elle n'est pas bonne, elle est oubliée.
La critique que j'ai un petit peu à cette cyclosphère de Twitter, c'est justement c'est qu'on lance des projets que je trouve géniaux, des propositions que je trouve géniales, mais il n'y a pas un après en fait.
Oui, bien sûr.
Là, c'est combien de fois avec Ludovic Fauché, le directeur, le président de Vélocité, on a parlé de comment on pourrait faire que toutes ces énergies-là, ils viennent dans des autres, voilà, une étape postérieure. Nous, c'est un petit peu dans les projets BAM, c'est ça qu'on attend un petit peu aussi, c'est réussir qu'il y a des usagers, des individus, que se trouvent avec des associations, qui ne sont pas forcément envie de s'engager tous les jours à 100% sur un projet concret, mais qui sont des projets, ils se retrouvent dans un endroit, dans un lieu dans lequel on peut lancer des projets, ils les mettent en œuvre. Voilà. Notre identité et notre ambition, c'est justement laisser une table pour que les gens qui ont envie de construire, mmh. ils puissent construire. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de fort et important.
Ok. C'est marrant, j'ai eu la même discussion avec Ludovic, tu vois.
Ah ouais, oui.
oui, on a tous conscience que, ouais. que des fois, on a des idées, mais que forcément, les politiques ne sont pas forcément à l'écoute parce qu'ils ont un milliard de choses à faire. Ça ouais. se comprend. Et donc, les choses passent plus ou moins à l'oubliette.
Bon, on va parler des métros. On savait qu'on arrivait là. Et je t'ai fait mon deuxième avis. Je t'ai vu, on avait parlé déjà, que je n'ai pas personnellement un avis, je ne me suis pas positionné pour ou contre métro. Je ne sais pas. Il y a des choses que ça me semble très intéressant dans le projet de métro. Mm-hmm. Il y a des choses que je me questionne. Le premier argument que ça me tatille un peu, c'est qu'on avait parlé, et avec Michael aussi, on avait fait un table ronde ensemble.
Ouais, super intéressant là.
Avec les jeunes de l'association des jeunes pour le transport de l'université. Et en fait, il mettait en avant un argument très intéressant que c'était si on utilise les métros dans les sous-sols, on va pouvoir libérer la place pour faire le développement des modes doux ou actifs comme le vélo et le péton.
Alors c'est pas systématique, c'est-à-dire qu'à travers le temps, si tu prends les métros à Paris ou même certains qui ont été construits après, le rééquilibrage n'a pas eu forcément lieu en surface. Et le but a été juste de capter des automobilistes, mais les automobilistes ont été remplacés par d'autres.
Mais quelque part même
c'est
pas.
C'est un choix politique. En fait,
c'est que si j'imagine les métros, je viens d'une ville, la ville de Madrid, dans laquelle les métros, tous les Madrilènes sont super fiers des métros de Madrid. Vraiment, on est tous, tu peux critiquer n'importe quoi de Madrid sauf les métros. Tu peux te prendre un carton si tu dis quelque chose de mauvais sur les métros de Madrid. Elle est super. Ouais. Elle est rapide, elle est propre, elle est ultra efficace, elle est sécurisée, elle est vraiment très 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 bien. Par contre, c'est une grande ville dans laquelle qui utilise le métro, c'est les gens qui habitent dans les centres-villes ou qui habitent dans la ville et qui déjà ils sont pas la voiture. Parce que c'est une grande ville comme Madrid ou comme c'est le cas de Paris dans lequel on va retrouver énormément de monde qui n'a pas de voiture, qui habite dans les centres-villes et qui n'a pas de voiture.
C'est aussi un peu le cas à Bordeaux. Si tu prends l'hypercentre,
oui.
Le taux de motorisation il est quand même plus faible que sur l'extérieur.
Bien sûr, mais l'hypercentre de Bordeaux, ça fait quoi? Ça fait 2,5 km.
Oui, bien sûr. Mais après, il faut voir aussi le métro ou même des autoroutes à vélo, je sais que tu n'aimes pas ça, comme étant des...
Non, pas trop cher.
des moyens de séduire les automobilistes d'aujourd'hui.
Par contre, cette idée de la compatibilité d'avoir un transport en commun dans les souterrains et en surface, elle est super compatible, c'est vraiment c'est très intéressant. Par contre, ça que j'ai eu peur, c'est que moi, les villes que je connais dans lesquelles il y a des grandes villes, qu'il y a des métros, qu'on a un métro, en fait, à haut, c'est une autoroute de voiture.
Oui.
C'est là le risque. C'est pour ça que je disais que moi, je ne me positionne pas trop, parce que là, je pourrais dire oui, je suis pour les métros, si je suis assuré que les centres-villes, ça devienne un centre-ville sans voiture, ou avec une diminution de voitures énorme. Ça veut dire qu'il faut un aménagement, il faut un envie politique de vraiment de dire on travaille, ok, on va dépenser des milliards d'euros. Tu me diras combien vous avez planifié l'arrivée des
métros. Ça dépend du projet, mais c'est autour de 100 millions du kilomètre.
100 millions de kilomètres, combien de kilomètres?
Ça dépend ce que tu fais.
Ouais, ça c'est.
Non, mais après là, sur les ateliers, la dernière ligne qu'on a imaginée.
Les ateliers projet. 5 ateliers projet avec l'association Métro Bordeaux pour planifier comment serait un projet.
Ouais.
Pour après, l'idée c'est quoi? Les donner à la métropole, les donner à.
Ouais, exactement. La ligne qu'on a imaginée, en gros. Elle partirait du campus, elle irait jusqu'au CHU,
okay.
Elle passerait par le centre et elle reprendrait tout le cours de la Marne qui est...
Que c'est quoi, ton... C'est
on sait que ça sera problématique avec
c'est
le...
Ton, c'est ton sujet.
Oui.
Alors je te laisse...
J'en parle un peu trop, mais...
Alors, c'est quoi le problème du cours de la Marne ?
Mais le cours de la Marne, il est assez étroit, ce qui fait qu'on n'aura pas des couloirs de bus partout pour le BHNS. Et les couloirs de bus, ils feront 3 mètres de large.
Il faut dire que bus au niveau des services qui viennent de Mérignac,
Saint-Aubin,
ils finissent normalement la gare Saint-Jean en passant pour le cours de la Marne.
Exactement, passant par la Victoire du coup.
Et là, le problème, c'est qu'évidemment, quand on arrive là, le bus c'est bien, mais au niveau des services, ça ne sera pas possible.
Mais ça sera compliqué parce que déjà, il y a le RER qui va arriver. Donc, tu parles peut-être, parce que tu veux parler de conditionnel. Le RER va quand même amener beaucoup de gens à la gare. Et le cours de la Marne, c'est le cours central pour se connecter à la gare depuis le centre-ville. Et donc, les couloirs de bus, 3 mètres. Si tu veux calculer comment ça va se passer pour les dépassements sur les vélos, tu as 1 mètre de gabarit dynamique pour le vélo, tu as 1 mètre de distance de sécurité pour doubler un cycliste en ville, et tu as les bus qui font 2,50 m. Donc tu arrives à 4,50 m. sur une voie qui en fait 3. Donc en fait les bus seront obligés de dépasser par la voie de voiture. Donc on se retrouve avec un bus à haut niveau de service qui sera bloqué par les cyclistes et qui sera bloqué par les voitures aussi parce que le cours il est tout le temps embouteillé. Donc c'est finalement un mode qui est censé être le nouveau tramway en version moins chère qui sera complètement englutiné dans la circulation. D'où l'idée de faire passer le métro en dessous, mais le métro, si tu le fais passer en dessous, tu fais plus passer de bus en surface. Et du coup, j'imagine que tu as vu le
bus au niveau des services, il n'ira pas jusqu'à la gare.
On pourrait l'arrêter ailleurs, ouais.
Ouais.
Si tu le fais aller jusqu'à Gambetta ou si tu le fais aller ailleurs, ce cours-là, tu peux le réserver et le piétoniser.
C'est ça que vraiment j'imagine bien les cours de la Marne en fait sans voiture. Pour moi c'est là que je me demande pourquoi entre un axe principal qui vraiment est structurant pour la ville entre la Victoire et la gare et on a un flux de voitures énorme pour traverser la ville. Évidemment, on ne peut pas tout fermer à la voiture, ça c'est sûr, parce qu'il faut bien imaginer les émergences, il faut imaginer certains riverains et tout ça. Mais ce cours-là, je le vois clairement péatonniser.
Mais est-ce qu'on doit croire que les bus et les vélos suffiront pour capter tout le flux de voitures ? Moi, je n'y crois
pas. Mais on revient à la même question de tout à l'heure.
Oui, c'est ça.
Qui utilise la voiture au centre-ville ? Ouais. Il y a une petite question dernière, quelque part comme ça, et que je me pose la question aussi, c'est ta motivation de pourquoi quelqu'un qui est un informaticien, qui vraiment ne travaille pas dans la mobilité en soi, mais il passe son temps libre, son passion quelque part, et sa motivation de dire voilà, j'ai envie qu'il y ait les choses qui changent.
Oui, alors il y a plusieurs choses. Je pense que je suis né avec, un peu comme toi j'imagine. La mobilité, ça m'a toujours passionné. Comprendre pourquoi il y avait autant de bouchons sur la rocade et pourquoi les choses ne sont pas solutionnées depuis tant d'années, c'est un truc qui m'a toujours interloqué. Après, il y a des choses plus personnelles. J'ai perdu mon frère il y a 4 ans. Enfin, dans 2 jours, ça fera 4 ans. Dans un accident de voiture. Donc forcément, la place de la voiture, c'est un sujet qui est important pour moi. Je dis pas pour autant qu'il faut la supprimer, mais je pense qu'il faut la restreindre à son utilité, quoi. Parce que, quand tu sais qu'en ville, à Bordeaux, je crois que c'est 70% des déplacements qui sont... 70% de la place qui est réservée à la voiture alors qu'elle ne représente que 29% des déplacements. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Donc c'est pas juste le fait d'avoir perdu mon frère, c'est un ensemble, moi aussi, j'ai envie d'une ville plus agréable, une ville qui est remplie comme une caisse. C'est pas un truc qui m'intéresse vraiment. Donc, on essaye de se battre au quotidien pour faire mieux, pour avoir mieux.
Et est-ce que c'est possible?
Bien sûr.
Là, il a des jours que c'est bien, oui. Il a la lumière, il dit oui, on va réussir et tout ça. Mais il y a un travail que pour moi c'est très important, de tous ensemble, mm-hmm. qu'il y a les personnes comme toi motivées, que vous êtes des militants et que vous présentez des propositions magnifiques. Les collectivités, des institutions comme l'ADEME, des associations comme Vélocité, comme des autres associations vélo, mm-hmm. comme la Fédération Nationale, la FUB. Nous, BAM, qu'on a envie de fédérer tous ces acteurs-là. Il y a un travail à faire, mais sûrement, il faut qu'on change le paradigme, qu'on change la méthode, et qu'on commence à voir les choses d'une façon plus globale, et qu'on travaille, et qu'on apprenne à travailler tous ensemble. Ouais. On a un petit cadeau à te faire, justement, dans cette idée d'envie de collaborer et d'inviter à tout le monde.
Super.
C'est BAM, c'est pour tous en fait. C'est fédérer à tout le monde. Et c'est le lieu dédié à la mobilité, c'est totem de la mobilité dans lequel sera ouvert à tout le monde. Alors, bienvenue à BAM.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Paul, pour venir à nous parler de tout ça. Et on continuera à parler.
C'est sûr.
C'est bon ?